On sait que les performances, les installations, ce sont des œuvres qui sont difficiles à vendre et qui sont aussi difficiles à mettre dans les musées, à conserver dans les musées. Quel est votre point de vue sur ça, sur l'aspect conservation et ou marchandisation de ces œuvres?
Ben, disons que c'est pas notre propos, là. Je veux dire, finalement, nous autres, on s'intéresse pas à ce que c'est qui pourrait être qu'on pourrait appeler muséologie, là. Je veux dire, ça relève des musées, ben, qui s'en occupent. Je veux dire, en même temps, c'est les artistes qui travaillent pour les musées, ben, ils travaillent pour les musées, ils travaillent pas nécessairement pour autre chose que les musées. Ben, c'est comme n'importe quoi. Il y a des gens qui sont un peu plus qu'on pourrait appeler qui désirent plus sortir l'art des conditions, ou du moins des relations académiques. Qui essayent plus de diversifier les pratiques. Moi, ce qu'on dit souvent, nous autres, c'est qu'y faire de l'art, c'est mettre de l'art où il n'y en a pas. Alors, s'il y en a déjà au musée, je ne vois pas pourquoi on va en rajouter. Mais en même temps, ce qui est commercial, bon, il y a des artistes qui le font. Je veux dire, selon les statistiques, il y a 5% des artistes au Québec qui vivent de leur art. Alors, les 95%, ce qu'on fait avec, ça fait quand même pas mal de monde, là. Et c'est à eux, évidemment, de diversifier leur pratique et aussi leur méthode de travail. Et ça, ben, à la limite, à la fin de tout cet exercice-là, on est tous gagnants parce que s'il s'agit d'infiltrer ou d'impliquer ou que l'art se rentre à l'intérieur de la société, mais si les 95% des artistes qui font pas l'art commercial font toutes sortes d'autres choses, de la publicité, je sais pas, des communications, de la promotion, ils sont infiltrés un peu partout. Ben, on est tous gagnants à la fin, parce que ça va devenir une société qui est plus qui a le plus de dimensions artistiques. Parce que si on confine l'art à une petite particularité qui serait le musée et les galeries commerciales, ben, à ce moment-là, on enlève une énorme partie de conscience artistique qui se manifeste de toute façon.
Est-ce que votre déménagement de la rue Saint-Jean vers le quartier Saint-Roch fait partie de cette démarche-là ou c'était purement des considérations matérielles et de local?
Hey, c'est il y a 20 ans qu'on est déménagé ici. On est déménagé en 1990. Donc, c'est il y a 20 ans, là. C'était une question pour nous de chercher un espace assez grand. Et dans Saint-Jean-Baptiste, il n'y en a pas. D'espaces assez grands. Les espaces assez grands sont plus en basse ville, appelons ça Saint-Roch, Saint-Sauveur et compagnie. On a cherché à l'époque parce qu'on était sur la rue Saint-Jean en Haute-Ville et on n'a jamais été capable de trouver un local assez grand pour continuer nos activités. Alors c'est aussi pour ça qu'on est descendu ici. Et à l'époque, l'édifice à l'intérieur où on est avait qu'on pourrait appeler une vocation, un peu comme deviendra Méduse. Et beaucoup des centres qui étaient ici dans nos espaces, dans notre bâtisse, en bon québécois, Vidéofemmes, la bande vidéo, par exemple, quand est arrivé Méduse, sont partis à Méduse. Mais ici, la volonté, c'était de faire un petit Méduse à l'époque. Et ça n'a pas été possible pour toutes sortes de raisons, mais c'est que nous, à ce moment-là, on a acheté la bâtisse en 2003, puis il y a 12 groupes qui vivent avec nous aussi à l'intérieur de notre bâtisse. La majorité, c'est des ateliers d'artistes. Alors, c'est une autre vocation que celle de Méduse, qui est beaucoup plus de. Ben, Méduse, c'est beaucoup plus des laboratoires, des presses pour faire de la gravure, des ateliers pour faire du métal, bon, mais plus pour faire des trucs pour les artistes. Tandis qu'ici, c'est plus des. Appelons ça des ateliers d'artistes individuels.
Mais en fait, je vous posais la question parce que vous parliez de déménager l'art dans des endroits où il n'y en a pas. Et le quartier Saint-Roch n'est pas un quartier, hormis le complexe Méduse, hormis la gentrification du quartier. Il demeure que la grande majorité des gens qui fréquentent ces lieux-là ne viennent pas du quartier Saint-Roch, alors que vous, on sent quand même un certain attachement au quartier, à moins que je me trompe.
Bien, on était les premiers à venir à s'installer ici, ça c'est sûr, avant même les autres. Puis aussi même au niveau des historiques, le lieu existait en 82. Ça s'appelait la bande des quatre. Il y avait 4 centres d'artistes dans toute la province de Québec au début. Ce qui fait que, bon, on était parmi les pionniers, du moins. Mais même avant le lieu, il y a eu un organisme qui s'est appelé la Galerie Com, la Com Galerie, dans les années 74-76, et dans lequel moi j'ai fait partie, qui est un peu l'ancêtre un peu de nos collectifs d'artistes. Et il y a le numéro 100 de la revue Inter qui est paru en 2008, qui fait l'historique de ce qui s'est passé à Québec entre 78 et 2008 en architecture, urbanisme, en art visuel. Et c'est bilingue, c'est tout en couleur. Alors, c'est un document qui existe, qui explique bien l'évolution historique de la ville de Québec. Et il y a au début de cette édition spéciale, il y a un texte de Jean-Claude Saint-Hilaire sur ce qu'on appelait l'édifice les origines, autrement dit, de l'alternative ici à Québec. En début des années 80, il y avait une seule galerie d'art qui vendait des gravures, qui s'appelait Bénédicte Grenier, qui était dans l'édifice Rose-Saumon, Corée d'Youville, qui avait décidé de s'en aller à Montréal parce qu'il n'y avait pas d'avenir pour l'art contemporain à Québec. Alors, ça a été ça. Maintenant, on sait très bien qu'à Québec, il y a tous les lieux qu'on connaît à Méduse, la Galerie Vue, l'Œil de Poisson, la Chambre Blanche. C'est sûr que les choses ont beaucoup changé. Parce que, et dans ce numéro spécial d'Inter, numéro 100, sur l'histoire de la ville de Québec, entre autres, j'ai retrouvé la liste des premières personnes qui ont fondé la Chambre Blanche à l'époque. Alors, j'ai même republié la liste des premiers artistes, dont moi, j'étais un des personnes qui a donné un peu de fric à l'époque pour fonder ce qui deviendra la Chambre Blanche. Mais ça, c'était au début des années 80. Mais on se faisait dire aussi, ça s'appelait le Musée de l'Homme d'ici. À l'époque, on voulait virer le Musée du Québec en Musée de l'Homme. Ça deviendra le Musée de la Civilisation. Et ce sont les artistes qui ont voulu garder l'autonomie artistique de l'institution qui s'appelle le Musée, qui viendra le Musée des Beaux-Arts, évidemment. Et à l'époque, c'était les fonctionnaires du ministère de la Culture qui avaient décidé ceci, qui est très simple. On va mettre l'art contemporain à Montréal, mais on va mettre l'art ancien à Québec. C'était pas plus compliqué que ça. Vieille ville, vieux mur, vieil art. Puis à Montréal, bon, c'était pour l'avant-garde, donc c'est une ville un peu plus moderne. C'était une volonté politique des fonctionnaires du ministère de la Culture. Et c'est nous, les artistes, qui a dit non, on va rester à Québec, on n'est pas obligé de migrer à Montréal pour empêcher l'exode, puis permettre aux artistes de rester dans leur contexte social et dans leur communauté, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça vient beaucoup d'un artiste qui s'est appelé Robert Filiou, qui est venu ici à Québec, d'ailleurs, au début des années 80. Qui a envoyé le concept de l'Eternal Network, c'est-à-dire le réseau éternel dans lequel les centres d'artistes se trouvent un peu impliqués. Alors, c'était sûr qu'au début des années 80, l'idée, c'était d'empêcher l'exode de Québec vers Montréal, de Montréal vers Toronto, de Toronto vers New York. Fait qu'on s'est dit, si on est capable de rester à Québec, on n'ira pas à New York à la fin. Et c'est l'idée des périphéries par rapport au centre. C'est ce que c'est qui s'est passé depuis les années 80, c'est l'éclatement des périphéries, la création des réseaux par rapport au centralisme. Et ça fait partie évidemment d'une volonté pour nous de mettre une ville comme celle de Québec au même rang que des capitales artistiques, que les grandes capitales artistiques qu'on a connues à l'époque, qui sont Paris, New York et autres. Donc, c'est l'idée, c'est de décentraliser pour permettre de travailler au niveau des périphéries. D'ailleurs, c'est la belle phrase de Hank Bull qui était dans le Western Front à Vancouver. Dans la périphérie, tout le monde est au centre.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Martel. La revue dont vous nous parlez de Inter est disponible par le biais du site Internet, je suppose, pour tous les intéressés. Est-ce qu'il reste encore des numéros?
Oh mon Dieu, il en reste sûrement, mais le dernier aussi est extraordinaire. C'est un numéro sur l'art autochtone au Québec et au Canada. C'est très complet. Autant il y a une personne qui fait un doctorat sur le hip-hop chez les Premières Nations, etc. C'est un gros numéro. Le numéro 100, évidemment, c'est un numéro historique aussi qui fait le bilan, comme j'ai dit, architecture, urbanisme, art visuel, poésie. Après que toute une histoire sur la préhistoire des centres d'artistes. Il y a 14 centres aussi, 14 organismes qui ont choisi 4 événements qu'ils ont fait dans leur carrière ici à Québec. Autant la Chambre Blanche que Folie Culture, que même le Musée des Beaux-Arts. Et ça aussi, c'est en deux langues, français et anglais, c'est tout en couleur. Alors c'est sûr que l'Inter a fait, pour son numéro 100, ce spécial qui couvre ses propres 30 ans finalement, de 78 à 98. Et en 78, il n'y avait rien.
Sur le site Internet, je pense qu'on peut aussi trouver les DVD qui correspondaient peut-être à la trace des performances qui ont lieu et des installations. Puisqu'on ne parlait pas de marché, on ne parlait pas de musée, mais on a au moins les DVD.
Bien, sur le site des éditions, c'est très complet. On peut même acheter par PayPal avec une carte de crédit, s'abonner à la revue, acheter nos livres, etc. Je veux dire, c'est le site, c'est le... intertradunionlelieu.org www.intertradunionlelieuensemble.org et c'est ça. Alors, le site est assez complet, évidemment, au niveau francophone dans un premier temps.
Est-ce qu'on y trouve aussi la programmation du lieu comme tout. Centre de diffusion?
On trouve tout. On trouve tout ce que le lieu fait, ce que le lieu possède au niveau des publications, des DVD, la revue Inter, la liste de toutes les activités aussi.
Bien, merci beaucoup, Richard Martel.
OK, à bientôt.
Et donc, je vous rappelle qu'on s'entretenait avec Richard Martel, coordonnateur artistique du lieu qui est situé sur la rue Dupont dans le quartier Saint-Roch. Donc, un endroit à ne pas manquer.